Pascal Perrineau, qui est le grand témoin de ce congrès 2024. Merci, messieurs. Pascal Perrineau, qui a déjà été présenté par Jean-Marc Vézousfort. Je voudrais donc professeur des universités, longtemps directeur du CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po, avec ce matin une intervention sur le thème de la confiance démocratique. Un vrai sujet, un sujet central, confiance démocratique et élus locaux. Je rappellerai le titre de votre dernier livre, Pascal Perrineau, Le goût de la politique, qui a d'ailleurs été le prix du livre politique 2024. Et je rappellerai aussi une première collaboration qu'on avait eue à un moment exceptionnel qui était au lendemain du 13 novembre 2015. Beaucoup d'entre vous étaient là et au lendemain des attentats, les maires s'étaient réunis porte-maillot à Paris. Et je crois que c'est aussi la force de ce territoire qu'incarnent les maires. C'est à vous et puis après on engagera le dialogue avec bien sûr la contrainte du temps. Mais je sais que vous la maîtrisez.
Bien. Madame la préfète, messieurs et mesdames les élus, chers amis, je suis très heureux de me retrouver dans le Lot, bien que je découvre un Lot envahi par les eaux, ce qui n'était pas l'habitude quand je venais régulièrement dans le Lot, et en particulier dans le nord du Lot, dans cette belle commune de Martel. Donc c'est un peu surprenant pour moi. Nous avons progressé tous les deux, Monsieur Dumonteil et moi, de Toulouse à Cahors, au travers de grandes difficultés, se heurtant à des tombereaux d'eau. Alors je suis là pour vous parler d'un contexte qui est le contexte politique que nous connaissons depuis de nombreuses années, qui est celui du rapport que nos concitoyens ont à la chose publique, ont à la démocratie, qu'elle soit locale ou nationale. Et d'essayer de voir dans ce dispositif quelle est la place, quelles sont les attentes des Français vis-à-vis des élus locaux. Alors, Monsieur le maire de Cahors, tout à l'heure, parlait en effet de deux piliers essentiels pour les collectivités locales et particulièrement les communes. Ce bloc communal qui joue un rôle essentiel, bien sûr, dans l'investissement et donc dans le développement économique et social de nos territoires et du pays, mais il pointait également le rôle essentiel, et je crois que c'est le sens de la campagne développée par le président de l'AMF aujourd'hui autour de ces territoires qu'il faut utiliser comme étant de véritables écoles de la démocratie. Et vous êtes à la tête de collectivités qui sont à la fois les lieux d'expression de cette démocratie et puis des lieux aussi, on l'ignore trop souvent, des lieux d'apprentissage. C'est là où les Français apprennent la démocratie, la commune. Alors, je vais vous présenter, je vous le laisserai en héritage, un nombre de slides, comme on dit aujourd'hui, un nombre de documents qui sont issus d'enquêtes extrêmement récentes que nous faisons d'ailleurs très souvent à Sciences Po auprès de très gros échantillons de Français afin de prendre le pouls de la température politique des Français. Et j'avais créé, il y a maintenant une vingtaine d'années, un baromètre qui est publié chaque année, que nous faisons en janvier, nous allons le faire bientôt, de la confiance politique qui est censée mesurer la confiance dans tous ces états, du plan local au plan national, la confiance dans le privé, la confiance dans le public, la confiance dans l'État, la confiance dans les autres, etc. Alors, je continue à appeler ça baromètre de la confiance, mais on ferait mieux d'appeler ça baromètre de la défiance. Vous allez voir, le portrait est un portrait, sauf pour vous, rassurez-vous, sauf pour vous, mais est un portrait assez redoutable. Et un jeune économiste, Yann Algan, il y a quelques années, avait sorti un livre qui est de plus en plus exact au fur et à mesure des années qui s'appelait la société de défiance. Oui, nous sommes en France dans une société de défiance. Et vous allez voir, par rapport à plusieurs pays européens, nos voisins, nous sommes dans une société vraiment très particulière, beaucoup plus défiante que la société allemande, que la société britannique, même que la société, vous verrez, polonaise, puisque j'ai fait la même enquête en Pologne, que la société italienne, dont on dit souvent, on se rassure, vous savez, en disant tout à l'heure, on mentionnait, on disait, ça va mieux en France qu'en Italie ou qu'en Espagne. Oui, d'accord, mais enfin, voilà, eh bien, ça va mieux sur le terrain démocratique en Italie qu'en France. Alors, on va fonctionner en deux temps. Je vais essayer de comprendre avec vous et avec ces données ce qu'on pourrait appeler la fatigue démocratique des Français, hein, en n'étant pas trop agressif. Hein, parce que certains parlaient tout de même, j'entendais tout à l'heure, monsieur le président du conseil départemental, vous parliez de colère, certes de colère froide. Vous étiez prudent, mais par moments on est même dans une société de colère chaude, hein, et de colère extrêmement chaude. Mais on va essayer de comprendre comment cette colère, cette inquiétude, pourquoi cette fatigue démocratique des Français s'est-elle installée au point de devenir ultra-dominante. Quels en sont ses effets? Et ces effets, parfois délétères, que vous avez connus de manière claire dans les dernières élections législatives, européennes, et que vous connaîtrez demain dans les élections locales qui vont bientôt avoir lieu. Hein, ça ne va pas changer en quelques mois, cette affaire. Hein. Et dans ce cadre général, j'aborderai un deuxième thème, celui de la place des élus locaux dans le cœur des Français aujourd'hui. Alors commençons tout d'abord, espérons que ça marche. C'est là. Sinon je vous raconterai. Voilà.
Parti.
C'est parti. Alors tout d'abord, on va partir, et je vais vous montrer quelques chiffres, du constat de la défiance. Défiance tous azimuts, sauf vis-à-vis des maires et des conseillers municipaux. Donc restez là. Ensuite, on va voir que cette défiance pose un problème. Tant qu'il y a de la défiance, mais qu'au fond les Français disent la démocratie fonctionne tout de même pas trop mal, ça va. Le gros problème, c'est que depuis quelques années, les Français considèrent que la démocratie française marche mal, que ça n'est pas satisfaisant, que ça ne fonctionne pas bien, que la démocratie n'est pas efficiente. Attention, parce que ça ouvre sur un troisième thème, celui de la tentation autoritaire. Il y a, oui, en France, heureusement de manière minoritaire, une vraie tentation autoritaire, particulièrement chez les jeunes au sens large, les moins de 40 ans. Là, vous avez une vraie tentation autoritaire, l'attente d'un homme fort, l'attente de solutions qui seraient des solutions drastiques. Alors, on voit cette colère dont on parlait tout à l'heure, bien sûr, et je vois ici les représentants des forces de l'ordre. On a une société française, oui, qui est une société par moments prise de coups de sang. L'émeute que nous connaissions relativement peu en France est devenue, surtout pour les forces de sécurité qui interviennent en milieu urbain et périurbain, est devenue une réalité quotidienne. Ou une réalité, en tout cas, beaucoup trop fréquente. Et c'est un symptôme qui doit être lu avec d'autres symptômes. On abordera une question dont on parle beaucoup et qui peut, en effet, faire l'objet d'appréciations différentes selon nos systèmes de valeurs, nos orientations politiques. Mais vous voyez bien que la société française, comme beaucoup de sociétés en Europe aujourd'hui, est taraudé, travaillé par la question de l'immigration et la question de l'islam. Les deux questions. Mais nous ne sommes pas les seuls. Regardez ce qui se passe dans l'ensemble des pays européens, du Danemark à l'Italie, et j'allais dire des pays de l'ancienne Europe de l'Est jusqu'à la France. Cette question crée de plus en plus dans nos pays, et particulièrement en France et dans tous nos territoires, ce qu'on pourrait appeler une nostalgie identitaire. J'écoutais le député de la deuxième circonscription tout à l'heure et j'étais très touché par l'affect dont vous faisiez part vis-à-vis de votre commune, ce sentiment d'appartenance incroyablement fort à votre bourg. Mais vous disiez aussi, voilà, j'étais à la tête de cette commune et je voulais que cette commune avance. Et il ne faut pas que cet attachement devienne régressif, devienne un enfermement, devienne une nostalgie uniquement du monde d'hier. Parce que sinon, quelle sera notre capacité dans les années qui viennent à nous projeter, hein, dans les 10 années, les 20 années qui viennent, et à créer une société désirable pour nos enfants, tout simplement. Moi, je suis très sensible à ça parce que je suis enseignant. Un enseignant, c'est quelqu'un qui... c'est un passeur. On fait passer des générations d'une rive à l'autre. Hein. Et les élus, ce sont des passeurs aussi. Hein, pour les femmes et les hommes... les jeunes et les personnes plus âgées que vous avez sous votre, je dirais pas autorité, mais si sous votre autorité, c'est un terme noble, l'autorité. Bien sûr, politiquement, tous ces phénomènes ont un effet. Il y a des symptômes, au bout d'un moment, quand il se passe des choses dans la société, dans nos têtes, dans les valeurs, ça s'exprime politiquement. Moi, je m'intéresse depuis 40 ans, beaucoup, aux élections, parce que les élections me passionnent, parce que c'est un symptôme de la société. Pour moi, on lit une société dans ses résultats électoraux. Hein, on tire le fil et toute la société vient. Et là, bien sûr, je travaille sur ce phénomène depuis 40 ans, donc je commence un peu à le connaître. Il y a un effet relapse évident sur les succès impressionnants du Rassemblement national au plan électoral. C'est un succès impressionnant, parce qu'on peut, dans le passé, vous voyez, revenir sur des forces qui étaient apparues comme ça dans le système politique. Oui, il y avait une dynamique communiste, par exemple, après la guerre, mais ça n'avait rien à voir. Le Parti communiste existait avant la guerre. Quand le gaullisme apparaît, voilà, le gaullisme, il existait dès les années 50. Et bien sûr, quand le général de Gaulle arrive au pouvoir et que le gaullisme devient une force décisive, il y a une dynamique réelle, mais ça n'avait rien à voir. Là, je vous rappelle, Le Pen 0,7 en 1974, 41% pour sa fille au second tour de la dernière élection présidentielle. Hein? C'est une dynamique qui doit nous interroger, hein? Qui doit nous interroger, même si ça pose de multiples problèmes. Et puis ensuite, on essaiera de voir comment répondre à cette crise démocratique, quelques grands axes. Alors là, je vais aller vite, mais je vous laisserai ces documents. Hein, on va aller vite parce que j'ai bien confiance. La société de défiance...
Pour pouvoir garder du temps pour les échanges, bien sûr, les questions...
Bien sûr.
Voudrez-vous...
La société de défiance, ce n'est pas dans ma tête. Vous voyez, quand on interroge les Français aujourd'hui, qu'est-ce qui caractérise le mieux votre état d'esprit? C'est des gens comme vous, hein. La méfiance, la lassitude, la morosité. Voilà ce que les gens ont en tête. Le trio de ce qu'ils ressentent. Vous vous rendez compte, hein? Et diriger une société avec ça, je vais vous dire, c'est pas évident. Hein? C'est vraiment pas évident et bravo pour ce que vous faites. Hein? Ce qui complique tout, c'est qu'on se dit, mais voilà, les élus pourraient être autant d'amortisseurs de ce climat de défiance. Le problème, c'est que vous avez des difficultés. Pourquoi? Parce que vous pâtissez d'une mauvaise image. Pas vous, les maires. Mais, comme il y a d'autres élus, je me permets, sans donner aucune leçon, on constate des faits. Les Français, c'est la vieille tradition de l'assiette au beurre, ils ont l'impression, véritablement, qu'ils sont dirigés par des corrompus. 68% des Français ont l'impression que les dirigeants politiques sont plutôt corrompus. Et vous voyez que c'est une constante. Là, il y a toutes les années, c'est une constante. Donc il faut faire avec. Il faut faire avec, c'est très compliqué. Forcément, quand on a cette perception, la confiance dans les institutions politiques, elle est faible. Commençons par le bas du tableau. La confiance dans le gouvernement, 28%. La confiance dans l'Assemblée nationale, 29%. La confiance dans l'institution présidentielle, 31%. C'est au maximum un Français sur trois. Les seuls, on y reviendra, qui échappent à ce tir au pigeon, à ce jeu de massacre, c'est le conseil municipal, 59%. Le conseil départemental, monsieur le président, 51%. Le conseil régional, on passe un petit peu en dessous des 50%. Mais enfin, on voit que, au fond, le seul pôle de confiance dans ce paysage dévasté qui résiste, c'est le local. Voilà. Alors, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est très inquiétant, et vous voyez qu'il y a quelques années, ça n'était pas le cas, c'est que maintenant, les Français considèrent que la démocratie fonctionne mal. En 15 ans, le pourcentage de Français qui disent « ça fonctionne mal, ça fonctionne pas bien la démocratie en France » est passé de 48% à 68%. Plus 20 points. C'est énorme. C'est-à-dire, on dit maintenant, la démocratie, si ça fonctionne mal, d'ailleurs, pourquoi pas, on pourrait s'en passer. Pourquoi garder un machin qui ne marche pas, à nos yeux. Et vous voyez que c'est, là j'ai mis l'Allemagne, la Pologne et l'Italie, et c'est en France où ça va le plus mal. En Allemagne, c'est 51% des Allemands qui ont confiance dans la démocratie. En Pologne, qu'on présente toujours du doigt, 35%. En Italie, 36, en France, 31. Donc, il y a bien un problème franco-français. Alors, forcément, on retourne son regard vers autre chose. Et on regardera simplement quelques éléments. Avoir à sa tête un homme fort qui n'a pas à se préoccuper ni du Parlement, ni des élections. Vous voyez qu'on ne fait pas dans la dentelle. Eh bien, c'est 34% des Français aujourd'hui qui vous disent cela. Que l'armée dirige le pays, 23%. Vous voyez, ce sont des minorités, mais des minorités fortes et peut-être un jour agissantes. Parce qu'elles ont l'avenir démographique avec elles. Ce sont les jeunes. Ce n'est pas les vieux croutons nostalgiques de je ne sais quoi, Vous voyez, les gens de mon âge, quoi, qui se diraient « Oh, c'était bien l'armée ». Pas du tout. Ce sont les jeunes. Et la pulsion autoritaire, alors je vais passer, est très forte. Vous voyez, c'est maintenant même sur « il faudrait rétablir la peine de mort ». C'est un Français sur deux. Vous voyez, je dis ça pour mieux, on comprend mieux après ce qui peut se passer. Voilà. Donc de vraies pulsions autoritaires. Allez, on va passer parce que je veux absolument vous obéir et tenir le temps. Alors, dans ce contexte, les Français, bien sûr, les réactions aux émeutes urbaines sont extrêmement vives. Les Français découvrent ce qu'ils croyaient le propre des pays comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Quand on découvre ça dans l'Hexagone, vous voyez, on est quelque peu surpris. Et ce qui est intéressant, là aussi, par rapport aux archétypes, aux articles parfois de journaux, c'est de se dire, mais les Français, au fond, qu'est-ce qu'ils pensent de la répression légitime, républicaine, démocratique, qui doit être faite vis-à-vis de ces émeutes urbaines. Et là, je vois qu'il y en a parmi nous, et ça me permet de les saluer, la gendarmerie est au sommet. Elle est au sommet. 76% des Français, en pleine période d'émeute urbaine, disent qu'ils ont pour eux une bonne image. Non, mais c'est rassurant, vous voyez, parce que si la défiance touchait aussi les corps de sécurité qui entretiennent cette valeur fondamentale, ce droit de l'homme fondamental qui est la sûreté, ce que nous appelons la sûreté, aucun droit démocratique ne peut s'épanouir sans la sûreté. Si les forces de sûreté faisaient l'objet de d'une défiance majeure, ça serait dramatique. Les policiers, 69%, la police municipale, 67%. Je vous laisserai ces données. Donc, comme ça, vous pourrez, voilà, je vous les donnerai tout à l'heure, si vous voulez. Alors, la question de l'immigration, qui, vous savez, derrière la question du pouvoir d'achat, aujourd'hui, est une des questions les plus importantes pour les Français. La question de l'immigration, les perceptions négatives de l'immigration sont en hausse. Si vous voulez, je dirais qu'un seul chiffre, 2/3 des Français considèrent qu'il y a trop d'étrangers en France. Voilà. Hein ? Donc forcément, ce sont des électeurs de droite, du centre et de gauche. Hein ? Quand vous atteignez un tel niveau, bien sûr. Hein, si vous regardez à gauche, c'est environ un électeur de gauche sur deux qui considère qu'il y a trop d'étrangers en France. Hein ? Bon, il y a d'autres items sur lesquels on peut passer. Et il y a la question, qui est bien sûr une question très importante, en particulier depuis les attentats de 2015, c'est la perception de l'islam. Alors, pour ne pas parler de l'islam, mais parler du phénomène religieux, il faut comparer à la perception que les Français ont d'autres religions. Et là, si vous dites aux Français, est-ce que la religion catholique est compatible avec les valeurs de la société française, c'est 88% des Français. La religion juive, 79% des Français. La religion musulmane, là il ne s'agit pas de dire l'islamisme, hein, la religion musulmane, 39%. Donc on voit, en effet, oui, il y a une perception qui n'est pas une perception positive, là même de l'islam. Ça n'était pas le cas de cette manière avant la phase des attentats. Les attentats ont cassé quelque chose vis-à-vis du rapport qui était compliqué, mais qui n'était pas aussi dégradé des Français avec l'islam. Il y a eu quelque chose là qui s'est brisé, dont on peut comprendre bien sûr les tenants et les aboutissants. Vous voyez qu'en début de période, les gens avaient plutôt davantage confiance. Alors ça crée en effet une nostalgie identitaire phénoménale. Autrefois, aujourd'hui, on ne se sent plus chez soi comme avant. C'est 2 Français sur 3 qui pensent ça. 2 Français sur 3. Et j'ai bien d'autres items qui illustrent cette nostalgie identitaire. Dans ma vie, je m'inspire de plus en plus des valeurs du passé, 71. En France, c'était mieux avant, 73%. C'est-à-dire, attention quand un peuple ne regarde plus l'avenir, mais sans arrêt en train de regarder dans le rétroviseur. Hein ? Ça n'est pas simple, hein, de recréer une dynamique. Alors ça a un effet relapse, bien sûr, sur le Rassemblement national. La perception de ce parti, qui a été considéré pendant longtemps comme le diable de la République, comme on disait, hein, la perception change. Hein. La perception change. Un parti de proximité, c'est aujourd'hui, aux yeux des Français, le parti qui apparaît comme le plus proche des préoccupations des Français. Alors, il n'y a que 40%, parce que si c'était plus, alors là... Mais enfin, c'est beaucoup plus que tous les autres partis. Et un parti capable de gouverner le pays, ça c'est extrêmement important, c'est 44% des Français, c'était il y a quelques années 30% des Français. Une poussée de 14 points. Donc le travail de respectabilisation n'est pas achevé, mais il est en cours. Il est en cours. Et cela se traduit bien sûr par le choc des élections européennes et... Même si le deuxième tour a envoyé un signal autre que le premier tour du fait de la stratégie du Front républicain, le résultat des élections législatives, dans lequel il faut faire attention. Dans les résultats, on dit très souvent l'union de la gauche. Oui, mais l'union de la gauche, c'est 4 groupes. Hein ? C'est 4 groupes. C'est pas un groupe. Voilà. Hein ? C'est 4 groupes et... C'est le groupe du Rassemblement national, hein, avec plus de 120 députés, qui reste aujourd'hui le groupe, bien sûr, majoritaire à l'Assemblée nationale. Alors, comment faire ? Je crois, si vous voulez, pour être le plus simple et essayer de respecter, je m'arrête dans 3 minutes, hein, je crois que nous avons besoin d'agir sur trois terrains. La constitution de la Ve République, avec toutes ses limites, montre que c'est une constitution résiliente. Et il ne faut pas retourner à cette mauvaise habitude franco-française qui était « ça ne va pas, changeons d'institution ». Non. Hein ? Ça a créé une instabilité phénoménale au XIXe et au XXe siècle dont nous avons pâti plutôt que le contraire. Ces institutions sont souples, elles ont montré qu'elles pouvaient tenir le choc de la cohabitation, et elles montrent même qu'elles peuvent tenir le choc de la situation indéfinissable dans laquelle nous sommes. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les rééquilibrer. Les rééquilibrer au profit du pouvoir législatif. Mais c'était l'esprit même de la Constitution de 1958, lorsque Michel Debré et le général de Gaulle y réfléchissaient. Il ne parlait pas de régime présidentiel à l'époque. Il parlait d'un régime parlementaire. D'un régime parlementaire rationalisé, avec des instruments efficaces, comme l'article 49 alinéa 3, le vote bloqué, etc. Il ne parlait pas de régime présidentiel. Et d'ailleurs, de Gaulle n'avait pas demandé l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Il ne le fera que plus tard, en 1962. Et bien sûr, au profit des institutions locales. Pourquoi ? Ben parce que vous êtes les seuls dans lesquels les Français ont confiance. Donc pourquoi se priver ? Quel est l'imbécile qui irait se priver, même s'il avait une vision purement cynique des choses, de ce que vous représentez ? Puisque c'est en vous qu'on a confiance, et c'est, vous êtes les seuls politiques auxquels on dit il faudrait qu'ils aient plus de pouvoir. Vous êtes les seuls. Donc, pourquoi se priver de cette ressource ? C'est vous qui faites tenir le pays. Et ça correspond à quelque chose de très fort dans nos psychés personnels. Les Français, ils ont deux patries. Ils ont la patrie nationale et ils ont la patrie locale. Ils ont les deux. Les autres appartenances, vous voyez, sont des appartenances faibles. Hein ? La région, on comprend, c'est très technocratique, la région, au départ. Puis ça l'est resté, d'ailleurs. Regardez comment s'est fait le dernier découpage régional. Hein ? C'est une plaisanterie. Hein ? Technocratique, c'est fait sur un coin de bureau à l'Élysée, un coup de téléphone, t'es d'accord ? Je te mets tel département, ah ben non. Ouais. Voilà comment on réfléchit au territoire en France, ce qui est assez inquiétant. Hein le département, plus vieille collectivité territoriale, a plus de sentiments d'appartenance que la région, mais enfin est très en deçà, bien sûr, de la commune. Et vous êtes, pour les Français, l'échelon essentiel affectivement, politiquement et en termes d'appartenance. Hein et certes, ça varie dans les grandes communes, je n'ai pas le temps de vous les montrer. Dans les grandes communes urbaines, c'est moins fort. Mais ça reste tout de même fort. Mais alors, dans les communes rurales, c'est mais massif le sentiment d'appartenance à la commune. Hein ? Là, c'est 80% quoi, hein, des habitants. Donc là, il y a un travail à faire. Qu'enfin, si vous permettez, moi, pour voir ça depuis longtemps, on fasse une vraie décentralisation. La décentralisation, elle a toujours été faite, à gauche comme à droite, hein, par des centralisateurs. Et je pourrais vous le démontrer si j'avais le temps. Hein, elle a été faite par des centralisateurs. Donc, essayons de faire un peu de benchmarking et de s'inspirer des pays où il y a une vraie décentralisation. Je reviens du Pays de Galles, là, où j'ai passé 4 jours. Je vous assure qu'au Pays de Galles, on sait ce que c'est que la décentralisation. Hein, la dévolution des pouvoirs à l'échelon local. Et ça marche bigrement bien. Hein. Bon. Deuxième étage, créer une démocratie continue. Créer une démocratie continue. La démocratie continue, les Français, on le sait, ils ont envie de dire leurs mots très souvent. Bien. La démocratie participative, la démocratie délibérative doit être développée. D'ailleurs, notre président l'a senti confusément hein, dans ses initiatives de démocratie participative. Je crois qu'il y a là quelque chose à développer, qui est moins développé dans notre pays qu'ailleurs, à condition, et c'est très important, de l'articuler avec la démocratie représentative qui est la seule à avoir la légitimité à la fin des fins à décider. Si on invente cette tubulure démocratique, c'est un plus, la démocratie participative. Si on ne l'a pas, ça peut être un moins. Troisièmement, réhabiliter l'usage du référendum. Il était prévu dans la Constitution de 1958. Il a été beaucoup utilisé par certains présidents, pas par d'autres. Et on peut faire évoluer le dispositif en étendant le champ de l'article 11, en réformant le RIP issu de la révision de 2008, qui a des conditions tellement drastiques qu'il ne peut pas être mis en œuvre, mais sur des sujets de société décisifs, sur lesquels les clivages politiques sont, vous voyez, pas très bien définis. Mais demandons au peuple. Vous voyez, par exemple, on parle beaucoup de la fin de vie. Moi, la fin de vie, je l'ai vécue dans ma chair, dans ma famille, lorsque j'ai perdu mon père, lorsque j'ai perdu ma mère, lorsque j'ai perdu mon frère. Eh bien, je n'ai pas envie que les politiques et les représentants décident à ma place sur cet enjeu qui est un enjeu qui touche à des valeurs intimes. Je n'ai pas envie. J'ai envie qu'on me demande mon avis. Et je ne suis pas le seul en France. Hein. On est extrêmement nombreux là-dessus. Donc le référendum peut être le pire des moyens, mais aussi le meilleur des moyens. Et à cet égard, voyageons un peu. Regardons, j'ai été professeur longtemps à l'Université de Genève, regardons ce que font nos amis suisses. Ne soyons pas condescendants, ce qui est tout de même le principal défaut des Français. Et en Suisse, on consulte les Suisses sur le référendum. Et croyez-moi, la Suisse, c'est une démocratie bigrement apaisée. Voilà. Merci beaucoup.